C'est bon ? Alors R22, tout le monde, antenne Arsport 2024. Alors, et après ?
Bonjour Charlie, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ?
Bonjour Neil, avec plaisir. Alors je m'appelle Charlie, j'ai 28 ans, je suis freestyler basket. Je réalise aussi des films et je suis donc actuellement en train de préparer le spectacle Bounce Back avec Christina Taul, dans lequel je suis chorégraphe artistique pour le développement en fait des danseurs. Donc comment utiliser une balle de basket avec la danse pour exprimer des mouvements de basket. Donc j'ai été appelé à venir aider justement à la création de ce spectacle. Je travaille également avec la Maison des Jonglages, dans lesquelles je fais des interventions dans les écoles pour faire découvrir le freestyle basket dans les écoles, les collèges et les lycées. Et actuellement, c'est ce que je fais, en plus des vidéos sur Instagram.
Et Charlie, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours sportif ?
Bien sûr. Alors moi, mon parcours sportif, j'ai commencé tout d'abord par faire beaucoup de sport. Je pense que le sport, c'est super important. On m'a toujours inscrit dans des sports en dehors de l'école. J'ai commencé en faisant plein de choses, du judo, de l'escrime, des choses. J'ai un peu tout testé. Après, j'ai tout de suite été vers le basket parce que surtout mon grand frère faisait du basket et qu'on jouait beaucoup dehors. Mon frère a commencé le basket en club avant moi. Moi, j'ai continué à jouer toujours un peu dehors, de plus en plus, de plus en plus. Et après, je me suis inscrit. J'ai fait 6 ans de basketball. Par la suite, j'ai toujours aimé la culture américaine. Donc, il y avait le basket, ça allait forcément avec le hip-hop. Et j'ai beaucoup aimé danser. Donc, j'ai commencé à danser aussi. La danse, ça restait encore quelque chose de très timide parce que la danse, c'est beaucoup de... C'est très expressif d'aller quelque part danser ou danser devant des gens. C'est pas toujours facile quand on est jeune, tout ça. Moi, j'avais beaucoup plus de facilité dans le basket parce que c'était là où je pouvais m'exprimer et j'ai toujours aimé avoir ce côté showman déjà dans le basket parce que ça venait du basket de rue où on aime bien faire des mouvements, on aime bien que la foule réagit, faire un peu ridiculiser l'adversaire pour que les autres crient, tout ça. C'est plus ce mouvement-là que j'avais kiffé et que j'ai retrouvé beaucoup plus tard dans la danse.
Est-ce que tu peux nous parler de End One ?
Bien sûr, c'est justement l'une des inspirations qui m'est venue du streetball. C'était un groupe qui était aux États-Unis, qui faisait vraiment une fureur à l'époque. Et eux, c'était un groupe qui faisait des tournées, qu'ils avaient rassemblé beaucoup de joueurs, de basketteurs de rue, qui faisaient des choses vraiment extraordinaires. Pour nous, c'était des extraterrestres à l'époque. On regardait ça, on disait « waouh, c'est énorme ». Et leur truc, c'était vraiment justement ça, c'est-à-dire vraiment casser les règles du basketball traditionnel et faire des mouvements totalement même illégaux dans le basket. Et vraiment, c'était incroyable que ça soit dans des mouvements de dribble où ils pouvaient ridiculiser l'adversaire en faisant des crosses, c'est-à-dire des feintes, où ils faisaient vraiment glisser l'adversaire, où on les voyait également faire des mouvements avec la balle où c'était presque de l'illusion, en fait, où l'adversaire essayait de chercher où la balle était partie, et après mettre un panier, un shoot en pleine tête de l'adversaire, et tout le monde criait, c'était incroyable. Et nous, on regardait ça, on disait, mais les Américains, ils sont incroyables. Et on voyait aussi leur manière de jouer, les dunks, c'est-à-dire vraiment, c'était du spectacle. C'était vraiment au-delà du spectacle, et on voyait vraiment l'inspiration des Harlem Globetrotters, mais dans quelque chose de tout nouveau qui venait vraiment de la rue et qui était vraiment quelque chose à l'américaine. Quoi.
Et c'était quoi les Harlem Globetrotters ?
Alors, les Harlem Globetrotters, c'était et c'est toujours d'ailleurs un groupe de... C'est un spectacle en fait de basket où on voit une équipe de basket qui joue contre une équipe et ils font vraiment un spectacle incroyable où ils font, voilà, ils cassent totalement les règles. Il y a l'intervention de l'arbitre, ils glissent sur le sol, ils lancent la balle, ils l'attrapent, ils font un dunk, ça s'appelle un alley-oop. Et tout ça, c'était vraiment le côté vraiment chaud du basket qui a été mis dans un spectacle. Et c'est ce qu'on retrouve aussi même en NBA, c'est-à-dire beaucoup de choses qu'on retrouve pour le show, pour les spectateurs, parce que c'est vraiment quelque chose qui vient des États-Unis. Pour moi, c'est ce côté show qui est vraiment qui donne envie d'aller voir des matchs de basket parce que c'est palpitant.
Et est-ce que tu peux nous parler de NBA Street 2 ?
Yes. Alors, NBA Street 2, c'était un jeu vidéo que j'ai vraiment, vraiment... beaucoup auquel j'ai vraiment beaucoup joué. C'était un jeu vidéo qu'avait mon frère sur PlayStation 2 et forcément il me disait viens jouer parce que lui, il jouait pendant des heures, et de temps en temps, il me disait, bah, viens jouer avec moi. Et du coup, comme ça, il pouvait me battre. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que moi, je jouais aussi quand il n'était pas là. Et j'ai pu m'améliorer au jeu. Et après, il s'est rendu compte que moi aussi, je savais bien y jouer. On a pu commencer à faire des vraies parties. Et NBA Street Volume 2, c'était un jeu de basket où là, on pouvait, on pouvait vraiment aller en dehors de toutes les limites du basket. Et les personnages, ils volaient carrément. C'était pour faire des dunks, tout ça. Et il y avait beaucoup de techniques du basketball qui ont été injectées dans ce jeu. Et c'était vraiment tout nouveau. Et il y a d'ailleurs un mouvement dans lequel je me suis vraiment inspiré, c'est une roue. Et je me rappelle très bien, c'était le personnage Biggie Little qui faisait cette roue avec la balle sur les mains. Et je trouvais ça hyper impressionnant. Et plus on faisait de techniques impressionnantes, plus on pouvait avoir une sorte de jauge qui nous permettait de faire un truc super génial qui était un game breaker. Bref, c'était vraiment un jeu qui m'a beaucoup, beaucoup plu parce qu'il avait ce côté fun. Et en même temps, chaque personnage avait sa particularité. Il y avait des personnages qui étaient très doués en dribble, d'autres qui étaient doués en dunk. Il y avait vraiment ce côté où chacun avait sa spécialité et on devait après sélectionner notre équipe pour essayer de former une équipe qui soit le plus homogène, qui puisse avoir vraiment chacun leurs atouts pour vraiment gagner des matchs. Et ça, c'était vraiment un jeu dans lequel je me suis beaucoup, beaucoup inspiré. Et il y avait vraiment toute la culture qui passait par là aussi, avec la musique, avec leurs vêtements, le style. Et il y avait bien sûr les joueurs aussi dedans. Et j'ai découvert énormément de joueurs qui étaient légendaires, comme Will Chamberlain, comme Pete Maravich, comme Magic Johnson. À l'époque, je ne connaissais encore pas tellement le basketball. Et vraiment, j'ai découvert beaucoup de joueurs, justement, parce qu'ils étaient marqués par leur qualité dans ce jeu. Et j'ai énormément apprécié ce jeu. Il m'a beaucoup, beaucoup inspiré dans le freestyle aujourd'hui.
Alors, tu as appris le freestyle en jouant aux jeux vidéo et aussi en faisant du streetball, comme tu nous disais tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous raconter comment le streetball a inspiré aussi ta pratique et t'a construit scéniquement?
Bien sûr. Alors, il y a un souvenir dont je me rappelle énormément. C'était à l'époque où je jouais au basket et j'étais dans une équipe. Et vu que j'étais assez doué, on m'avait mis avec les plus grands. On m'avait mis avec les plus grands, mais on ne me faisait pas forcément jouer. J'étais souvent sur le banc. Et je me rappelle d'un match où j'étais resté sur le banc très, très longtemps. Et à la fin du match, je crois qu'il y avait une différence de 30 points. Je ne me rappelle même plus pour quelle équipe. Et on m'a fait rentrer au bout de... Il ne restait qu'une minute de jeu. J'ai attrapé la balle et je me suis mis à faire du streetball. C'est-à-dire que j'ai pris la balle, je l'ai collée sur le dos de l'adversaire. Tout le monde a crié. J'ai jeté la balle et vraiment, le coach était énervé parce que ce n'était vraiment pas quelque chose à faire. Mais tout le monde criait, tout le monde avait le chaud. Et c'est l'une des choses dont je me rappelle qui m'a beaucoup, beaucoup appris et qui m'a beaucoup donné envie de continuer ça, le côté chaud. Parce que je voulais vraiment montrer en fait quelque chose venant du basket où les gens avaient ce côté spectaculaire, quelque chose d'intéressant, en dehors du match même. Et c'est de là où vraiment je me suis inspiré à la fois du streetball, à la fois du jeu vidéo, pour commencer à faire de nouvelles techniques, c'est-à-dire prendre des techniques qui existent déjà. Et d'ailleurs, pour revenir sur le jeu NBA Street, il y avait une partie où on pouvait regarder les mouvements plusieurs fois. On pouvait même désigner quel mouvement le joueur allait faire. Et du coup, on pouvait regarder le mouvement. Et moi, c'est ce que je faisais. Et j'essayais de les répéter. Et souvent, c'est ce que je faisais aussi même dans les vidéos end-one. Je me dis, ah, comment il fait ? Ah, j'ai regardé, j'essayais même avec des nounours chez moi pour essayer de le faire, à l'époque, je m'en rappelle. Et il y avait ce côté-là. Après, j'allais jouer sur les terrains, je disais à mes potes, venez, on va jouer. J'essayais sur eux pour après les essayer. Et tout ça, après, ce qui s'est souvent passé, c'est que je me retrouvais, avant que les autres arrivent sur les terrains de basket, je me retrouvais tout seul. Et ce que je faisais, c'est j'essayais des mouvements tout seul. Sur un terrain de basket, j'étais là à jouer. Il y avait moi, un panier, une balle, et je faisais un mouvement, tac, 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 j'essayais de faire le mouvement, marquer, et répéter. J'étais dans ma tête, je mettais de la musique, et vraiment, c'était un kiff, en fait. Et après, comme ça, je pouvais l'essayer dans le match.
Et le streetball, du coup, ça se fait dans l'espace public, et est-ce que cet espace public, il sert aussi pour le jeu ? Est-ce que ça peut être aussi un endroit où tu inventes, où tu peux créer des surprises, plus que, par exemple, dans un gymnase ?
Bien sûr, parce que dans un gymnase, on va être limité déjà, soit que ce soit en club ou en match, on va forcément être limité parce qu'il y a des règles, parce qu'on nous apprend justement une posture, on nous apprend à protéger la balle d'une certaine manière, on nous apprend à dribbler d'une certaine manière. C'est pas la même dynamique. C'est pour ça que c'est super intéressant de jouer dehors et même des grands joueurs encore font encore des parties comme ça, et on le sent en fait qu'il y a même certains joueurs de NBA qui viennent du streetball. Et c'est vrai que ça a été très important parce que aux États-Unis, ce qui coûtait le moins cher à mettre en place, c'était le basket, parce que ça coûtait pas grand-chose, il suffisait d'un peu de bitume, un panier de basket, et c'est pour ça que ça s'est extrêmement développé, le streetball aux États-Unis. Et forcément, c'est une culture qui a touché la France très vite grâce au hip-hop, qui est une culture qui a touché même le monde entier d'ailleurs, hein, pas seulement la France, mais on en retrouve partout, hein, que ça soit en Chine, au Brésil, dans tous les pays du monde. Et c'est vrai que parce que c'est quelque chose qui est facile, qui est accessible facilement pour des gens qui sont pas forcément de, enfin qui sont de milieux pauvres, on peut le dire comme ça, parce qu'il suffit d'une balle de basket et d'un terrain, ou même dans certains endroits, on voit qu'il y en a qui sont très inventifs, ils mettent des cageots à hauteur. On a pu le voir là pendant le confinement, là où ils ont fermé des terrains de basket. Dans certains endroits, il y a des personnes, ils ont juste accroché une cage en haut d'un arbre et ça y est, ils peuvent jouer au basket. Ce qui n'était pas pareil, par exemple, quand on voyait le foot américain ou le baseball qui demandait d'avoir peut-être un peu plus de moyens. Et c'est pour ça que le basket de rue s'est vraiment développé et que chacun a eu cette liberté en fait, de jouer comme il le voulait. Parce que quand on joue au basket de rue, il y a l'auto-arbitrage. C'est-à-dire que le joueur qui va attaquer, il va annoncer sa faute. Et c'est lui qui va dire « Ah, il y a eu faute sur moi ». Et il faut que les autres soient aussi d'accord. Et c'est de là où, en fait, crée toute une discussion, un conflit. Mais en général, c'est comme ça que ça se passe.
Et ton parcours artistique, il est arrivé à quel moment là-dedans ? Où est-ce que tu as appris à danser ?
Là où j'ai commencé… Alors, j'ai toujours dansé, mais je n'ai jamais vraiment mêlé le basket de rue avec le freestyle comme ça. C'est venu beaucoup plus tard. Et là où ça a commencé, je dirais que… j'aurais dit que ce serait plutôt dans les campings, parce que j'ai commencé en étant animateur, où j'ai commencé à faire mes premiers vrais spectacles. C'était en étant animateur dans les campings, et parce que quand on est animateur, on participe également au spectacle, on participe à tout, hein, et c'est là où j'ai dit bah voilà, moi je sais faire ça, et j'ai commencé à mélanger un petit peu la danse, tout ça, parce que c'est là où on nous apprenait aussi à faire de la danse. J'ai toujours dansé, j'ai toujours aimé danser, que ce soit dans les soirées, que ce soit partout. Et c'est vrai que là, on m'a commencé à faire des spectacles. J'ai commencé à mélanger un petit peu des mouvements où je faisais des blocages. Et suite au spectacle que j'ai fait dans les campings, j'ai rencontré un producteur qui venait du monde des campings. Et je suis entré dans une première compagnie où là, j'ai commencé à vraiment travailler dans la danse sérieusement. J'ai rencontré Mourad Merakchi qui venait du crew Vagabond, qui a été 2 fois champion du monde de breakdance. Et là, j'ai appris ce que c'était que travailler la danse. Je connaissais vraiment la discipline du basket. J'avais vraiment cette discipline de pouvoir faire du basket 4 heures par jour, il n'y avait pas de souci. Mais la danse, et surtout le breakdance, ça a été très, 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 très physique. Et après, j'ai commencé à mélanger ces mouvements à partir de cette époque-là. J'avais environ 20 ans, je pense. Et c'est là que j'ai découvert vraiment le travail en tant que danseur, où c'était vraiment 2 heures le matin, 5 heures l'après-midi, plus répétition, spectacle. C'était très physique, très dur.
Et du coup, c'est quelle danse que tu as travaillé, que tu as abordé toi dans ton parcours de danseur ? Est-ce que tu peux nous les décrire, ces différentes danses, différents styles ?
Bien sûr. Alors, je dirais que l'une des premières danses que j'ai commencé à utiliser dans le freestyle, ce serait le popping. Parce que j'ai commencé à faire des mouvements avec, où je commençais à bouger et faire des blocages. Donc le popping, c'est une danse où il y a beaucoup de blocages, où on se développe. C'est vraiment un peu le côté robot, on va dire. Et ce que j'avais, je pense, commencé à mettre dedans en premier. Mais avant la danse, l'un des premiers mouvements que j'ai commencé à mettre dans mon freestyle, c'était un mouvement qui vient du taekwondo, qui vient aussi du tricking, et qui est le tornado. Donc c'est un kick sauté, en fait, où on fait un coup de pied sauté, et dans lequel je l'avais déjà mélangé avec le basket depuis très longtemps. C'est mon mouvement signature, d'ailleurs, que j'appelle le KFC. J'appelle ça le KFC pour le Kung Fu Charlie. Et en gros, c'est un mouvement où je fais un premier coup de pied, je pose mon pied et je passe la balle entre les jambes, puis un coup de pied sauté où je fais passer la balle entre les jambes. Donc ça, c'était le premier mouvement. Ensuite, donc, il y a eu le popping. Ensuite, j'ai incorporé aussi du crump, parce que c'était une danse que j'aimais beaucoup. C'est une danse qui est très agressive, qui a ce côté un peu bestial. Et d'ailleurs, on retrouve beaucoup de mouvements d'acting aussi qui viennent des animaux. C'est-à-dire, on va s'inspirer d'un animal pour pouvoir commencer à se déplacer, avoir ce côté animal, ce côté instinctif, agressif, qu'on va incorporer dans nos mouvements. Et ça, c'est quelque chose qui vient un peu de la danse rituelle, où il y avait ce côté un peu trance, etc., où tout le monde part un petit peu dans un délire. Et ça, c'est vrai que j'ai commencé à l'incorporer parce que c'est très intéressant dans les trainings les lab sessions, où on peut avoir ce mouvement, où on va chercher de nouveaux mouvements, c'est-à-dire on va se laisser emporter par la musique pour avoir un nouveau mouvement. Et après, une fois qu'on l'a, on va le répéter et ça va devenir un mouvement qu'on va pouvoir incorporer après dans d'autres chorégraphies et d'autres créations. Donc, je dirais, ouais, les deux premiers vraiment danses, ça a été le popping, ça a été le crump et le breakdance surtout. Et je pense avoir commencé surtout par le popping et le crump et ensuite le break. Quand j'ai rencontré Mourad, ça a été vraiment un très, très intéressant parce que c'est lui qui m'a orienté dans toutes les danses parce que c'était quelqu'un qui connaissait vraiment la danse par cœur. Et il a commencé à me montrer un peu ce que c'était que l'isolation, c'est-à-dire de savoir isoler une partie de son corps et une autre pour pouvoir après se déplacer, faire de la construction. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris sans la balle et après que j'ai pu mettre avec la balle. Et c'est vraiment complètement différent quand on a un objet entre les mains. Mais c'est vrai qu'il faut savoir, quand on veut commencer à travailler la danse dans le freestyle, il faut commencer à travailler la danse indépendamment parce que c'est très important de connaître la chose avant.
Donc, et du coup, le freestyle, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que le freestyle ball, Charlie ?
Alors, le freestyle ball, il y en a plusieurs. Je dirais déjà, il y a le freestyle football, donc c'est le freestyle avec un ballon de foot. Et donc là, ça va être tous les mouvements qui viennent surtout le côté brésilien, où on fait tourner la balle, tout ça. Mais surtout, moi, ce que je fais, c'est du freestyle basketball. Et en gros, pour moi, si je pouvais donner une définition, ce serait bouger avec une balle de basket d'une manière cool, on va dire. Si je peux dire ça comme ça, j'aurais même dit gesticuler avec une balle parce qu'on pourrait ne pas définir forcément les mouvements qu'on fait. Mais c'est vrai qu'il y a pour définir le freestyle basketball, je dirais que c'est ça, ça se définit avec des mouvements qui viennent du basket, qui seraient des dribbles, qui seraient des spins. Les spins, c'est le fait de faire tourner la balle sur le doigt. Et après, à chacun d'y mettre son imagination, on peut danser avec, on peut faire du kung-fu avec, on peut faire des acrobaties avec, on peut faire du breakdance avec. Et après, ça va être vraiment à chacun de voir. Il y a des personnes qui ne vont pas du tout dribbler, qui vont faire que des spins, c'est-à-dire faire tourner la balle sur le doigt, qui vont lancer la balle, qui vont la récupérer. Il y en a qui vont faire beaucoup de danse comme moi avec. Ça va être vraiment à chacun sa définition, je pense. Mais d'un autre côté, c'est ça, c'est bouger avec une balle de basket en dehors des règles basées du basketball, on va dire.
Et c'est quoi les liens du freestyle ball et du freestyle basketball avec l'univers du hip-hop ?
Alors, je pense que c'est totalement lié. En fait, je dirais que c'est une nouvelle branche même. Même si ça existe depuis longtemps, le freestyle basket, je pense que c'est une branche qui se raccorde totalement à la danse, totalement. Pour moi, dans l'univers hip-hop, dans les parties danse, je pense que c'est lié à la danse hip-hop. Le freestyle basketball fait partie d'une danse hip-hop dans ma tête. Après, à chacun d'en débattre, mais pour moi, le freestyle basketball est une branche de la danse hip-hop. Parmi toutes les danses hip-hop qui existent, moi personnellement, quand j'ai toujours parcouru les catégories dans les concours, on m'a toujours mis dans la catégorie danse parce qu'il y a de la danse dans ce que je fais. C'est aussi du jonglage, certes. Après, ça va être à chacun de le définir. Il y a des personnes qui vont faire vraiment du freestyle basket dans un cadre de jonglage et ce sera quand même du freestyle basketball. Mais dans ma catégorie à moi, dans ma manière de faire, ça reste dans la catégorie danse avec aussi du jonglage.
Et comment tu définirais ton style ? Comment tu nous décrirais ton style ?
Alors, comment je décrirais mon style ? Je dirais que c'est vraiment un mix. C'est un mix de plusieurs disciplines, de plusieurs inspirations. Moi, je le définirais comme du freestyle basket, du hip-hop freestyle basket, si on pourrait l'appeler comme ça. C'est vraiment ce qu'on recherche dans le freestyle, puisque moi, je me suis beaucoup développé pour incorporer des battles de danse. Et ça m'a extrêmement enrichi de vouloir travailler dans cette direction.
Et moi, je pense que ouais, on pourrait définir du freestyle basket battle show. C'est-à-dire vraiment, c'est du freestyle basket qui est fait pour des shows, pour des spectacles, à la fois contemporains aussi, parce que moi, ce que je fais, c'est vraiment d'élargir ce que je fais pour avoir des effets différents. Et je pense que moi, je suis vraiment dans le côté freestyle battle, battle dance et battle freestyle, et le côté aussi show, c'est-à-dire les spectacles qu'on va faire.
Et tu as inventé des personnages, est-ce que tu peux nous raconter ça?
Bien sûr. Alors, bah, déjà dans la danse, beaucoup de danseurs vont avoir leur leur nickname, leur surnom, et de ce surnom vont créer leur personnage autour de ça. Alors après, il y en a certains qui restent dans leur personnage, mais qui vont pas forcément s'habiller différemment. Et il y en a certains comme moi qui vont parfois aller plus loin, c'est-à-dire d'avoir vraiment le costume du personnage. Et mon personnage que j'ai créé personnellement, le premier personnage que j'avais créé, j'ai pas totalement créé, mais c'était Sangoku, c'était Sangoku freestyle. Donc c'était moi habillé en Sangoku où j'allais faire des shows, parce que j'avais des potes à l'époque qui s'habillaient eux en manga aussi, et on avait un peu cette team qui s'habillait en manga et qui faisait de la danse hyper originale. Donc ça, c'était le premier personnage que j'avais créé par rapport au côté kick, au côté où je faisais des coups de pied. Mais très vite, ce personnage, il a été remplacé par un nouveau personnage qui s'appelle Soupman. Et Soutman, c'est un personnage qui est en costume, qui est très sobre, qui est très peu expressif du visage, qui parle pas, qui a des lunettes noires. Et on se dit, c'est qui ce mec-là? Il y a plein d'inspirations de ce personnage. Il vient de Matrix, Men in Black, James Bond, un peu tout ça. On le regarde, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fout là? Il est en train de danser, il fait quoi? Et tout d'un coup, on voit ce mec-là en train de faire des mouvements de basket que personne n'a vu, avec des coups de pied, tout ça. Et c'est vrai que c'est ce côté un peu où on se dit qu'est-ce qu'il va faire, et après c'est hyper surprenant. Et là, j'ai créé ce personnage-là, vraiment Soutman, qui est étonnant, dans lequel j'ai beaucoup développé au niveau des réseaux sociaux, parce que ça allait vraiment avec cette époque où c'est vrai qu'avoir un personnage, c'est facile pour mieux s'exprimer, parce que du coup, c'est le personnage, c'est pas moi. Mais c'est plus ce côté-là, ouais, le côté personnage où qui est très recherché dans les réseaux sociaux. Certains vont prendre leur personne, on va dire leur personne physique, pour créer un personnage autour de ça. Moi, j'ai créé plutôt ce personnage qui était Soutman, parce que c'était intéressant, moi qui viens du milieu de l'acting, d'avoir justement un personnage qui va vraiment avoir toute une histoire petit à petit. On va découvrir des choses, on va le voir dans différentes situations, différents pays, et je trouvais que c'était vachement rigolo de le faire. Il y a beaucoup de gens qui ont suivi le délire et ça m'a beaucoup plu, quoi.
Et tu parles d'une histoire qui s'écrit petit à petit. Est-ce que c'est une histoire que tu pourrais nous raconter et nous raconter justement comment tu poses une étape, puis une autre, un jalon, puis un autre, et comment tu construis ça, comment ça se fabrique?
Alors, par rapport au personnage?
Le personnage et la fiction dans laquelle se développe le personnage.
Ok, alors en fait, l'idée, c'est de commencer. En fait, c'est parti vraiment d'un jour où on faisait souvent des vidéos à la Défense. Et un jour, j'étais habillé en costume parce que à l'époque, j'étais parti passer un entretien d'embauche. C'était vraiment la vraie histoire. Et j'avais des lunettes avec moi. Je me suis dit, ah, ça peut être drôle qu'on fasse un truc sur un thème Men in Black. Je savais pas encore, ou même pas forcément Men in Black, mais juste le côté où moi, où j'étais habillé en costard. Et moi, j'aimais beaucoup aussi la danse africaine. Et d'ailleurs, c'est un truc dont j'avais pas parlé dans les autres, dans l'autre partie des questions. Mais j'aime beaucoup la danse afro parce que je m'inspire beaucoup de ça. Je trouve que ça envoie beaucoup de bonnes vibes. Et il y avait des potes à moi qui faisaient beaucoup de danse afro. Et c'était parti d'une vidéo comme ça où j'étais juste habillé en costard. Et tout d'un coup, on voyait un mec en costard arriver et faire de la danse afro. Et ça a super bien marché. La vidéo, elle était très, très drôle. Et ça a beaucoup plu. Tout le monde m'a dit, continue, c'est vachement marrant. Et j'ai kiffé en plus aussi le faire, parce que je trouve que ça avait un côté surprenant et c'était rigolo. C'était le côté, voilà, ce personnage-là comme ça.
Et ça, c'est la première. Et après, donc, la première, elle se construit comme ça, complètement par hasard, parce que ouais, tu as le costume sous la main. Et comment tu poses après les autres pierres de ton histoire, les autres éléments de ton histoire?
Alors après, comme j'ai dit, c'est vrai que ça venait après des différentes inspirations. Et j'ai kiffé ce côté où il a un côté un peu visage peu expressif, ce visage, comme on dit, dissuasif. Il est là un peu... très sobre et tout. C'est ce côté classe en plus, c'est le costume passe partout. C'est très sobre, parce que c'est quelque chose qui, c'est très ancien en fait, un costume, le costume cravate, c'est quelque chose qui est un grand classique, et qui plaît forcément, en fait, parce qu'on se dit « Ah, la classe !» Dès qu'on voit quelqu'un en costume, on se dit « Waouh, la classe !» Et c'est vrai que bah, d'un côté, c'est un peu une critique et en même temps, c'est un kiff parce que c'est vrai que c'est ce côté où on est tous être en costume, aller au travail, tout ça. Et c'est ce côté où, où on a l'impression que c'est quelqu'un qui est très sérieux. C'est ce côté sérieux et le contraste avec quelqu'un qui va faire quelque chose de pas du tout sérieux et ridicule même. Et c'est ce que, sur lequel je me suis dit parce que c'est sur ça, sur ces bases-là que j'ai voulu avancer. C'est-à-dire faire quelque chose de toujours classe, sobre, un peu ghetto aussi, un peu côté hip-hop, mais aussi quelque chose de complètement décalé avec le ridicule. Et en même temps, d'avoir ce côté spectaculaire avec des choses inattendues où il y a toujours une classe. Par exemple, il y a une vidéo dans laquelle où je fais du freestyle, mais avec un téléphone portable. Donc, le cauchemar de tout le monde d'avoir ce téléphone qui va se casser un jour. Et moi, carrément, je jongle avec, je le récupère derrière le dos et toujours avec une grande classe. Et c'est là où j'ai toujours voulu, sur ces points-là, j'ai voulu toujours insister avec Shootman. C'était vraiment la classe, le délire, le côté un peu hip-hop. Et j'ai toujours voulu lui instaurer quelque chose de hip-hop et quelque chose de rigolo.
Et est-ce que tu pourrais nous parler d'autres personnages qui existent dans le milieu du freestyle ball ou du freestyle basketball ?
Ouais, bien sûr. Bah, y a un personnage auquel je pense tout de suite qui s'appelle Bug. Et que j'adore d'ailleurs, j'adore ce côté-là et qui pour moi qui est proche aussi de Shootman, je me suis même inspiré et j'ose même le dire qu'il y a des mouvements qui m'ont extrêmement inspiré dans ce qu'il fait. Et Bug, lui, son délire, c'est d'avoir un masque de clown, c'est un japonais, si je ne me trompe pas, c'est bien un japonais. Et lui, il a un masque de clown et on ne voit jamais son visage. Et il a des mouvements qui sont aussi très proches du breakdance où il va beaucoup utiliser les mains au sol, la balle qui tombe au sol. Et il a vraiment voilà, ce côté-là assez délirant, en fait, ce côté délirant parce qu'il a ce côté, ce masque de clown. Et à ce que j'ai cru entendre, je ne l'ai jamais encore rencontré. On s'est très brièvement parlé parce qu'il y avait un de ces mouvements que j'avais essayé. Et je lui ai dit, regarde, je le fais. Je voulais avoir sa réaction, savoir que s'il n'y a pas de dérangement. Parce que quand on commence à copier des mouvements, ça peut être très dérangeant pour des danseurs. Donc moi, je voulais lui montrer. Je lui ai dit, regarde, j'arrive à faire ton mouvement. Je l'introduis différemment. Il m'a dit que c'était cool. Mais sinon, je ne le connais pas personnellement. Mais à ce que j'ai cru entendre, c'est quelqu'un qui, à la base, qui est timide. Et il y a beaucoup d'artistes comme ça qui cachent leur timidité en se mettant dans la peau du personnage qui, lui, n'est pas timide. Et ouais, il y a ce personnage-là qui s'appelle Bugs. Après, j'en connais pas énormément d'autres qui ont des personnages aussi poussés. Ça va plus être par leur style. Mais j'adore vraiment, il s'appelle Bug et vraiment cool ce qu'il fait. C'est vraiment très, 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 très énergique, très, très puissant. Il est très réputé. C'est vraiment une star dans son pays. Bugs.
Et du coup, tu réalises beaucoup de vidéos aussi. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu réalises tes vidéos ?
Alors, comment je réalise mes vidéos ? Alors, il y a plusieurs manières. Si ça va être en training, très souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement poser mon téléphone, mettre de la musique et retravailler un mouvement ou un enchaînement. Donc ça va être une première partie. C'est-à-dire, très souvent, je pose le téléphone, ça me permet de revoir ce que je fais. Parfois, la vidéo, elle est bien. Donc, du coup, bah, je la garde et je la poste. Et parfois, je travaille juste un enchaînement de nouveaux mouvements. Et suite à ça, ce que je fais, c'est qu'après, je vais créer une vidéo. Alors, après, comment je vais faire ? Je vais trouver quelqu'un pour me filmer. C'est toujours mieux. Donc, des fois, parfois, je vais me balader, je vais voir un endroit, je vais trouver le lieu cool. Et en fonction de la lumière, tout ça, on va aller filmer là-bas. Parce que c'est cool d'avoir un beau décor, parce que ça exprime quelque chose, ça exprime l'endroit où on est, ça peut exprimer aussi, ça peut nous inspirer au niveau de la musique, c'est-à-dire le lieu avec la musique peut toujours nous inspirer aussi. Et ce que j'aime toujours faire, moi, c'est surtout créer du contraste. C'est-à-dire que si je vais être dans un endroit qui va être un peu ghetto, par exemple, ou un peu sombre, ou quoi que ce soit, on peut y mettre une musique classique, ou alors on peut jouer justement, appuyer sur le trait, être dans un sous-sol et mettre de la musique hyper hip-hop ou hyper rap. Et faire des mouvements un peu plus agressifs ou quoi que ce soit. Moi, ce que j'aime faire, c'est toujours ça. Après, c'est toujours trouver quelqu'un pour nous filmer, quelqu'un qui sait bien filmer, parce qu'il y a une manière de filmer qui peut changer totalement une vidéo. C'est-à-dire, on peut vraiment faire des mouvements même très simples, très basiques, si la personne sait bien les filmer, les mettre en valeur. ça peut tout changer. La musique, le montage peut vraiment créer quelque chose de totalement différent aussi.
Et qu'est-ce que ça veut dire bien filmé?
Alors bien filmé, déjà, ça veut dire ça dépend, hein, ça peut vouloir dire plein de choses. Bien filmé, c'est surtout déjà filmer en faisant en sorte que mes mouvements soient dans le cadre, déjà, première chose. Parce que si on fait un mouvement, sachant que la balle elle va un peu dans tous les sens et que voilà, ça sort du cadre, ça peut être chiant. Ça peut être dérangeant, si je peux le dire plutôt comme ça. mais c'est vrai que ouais, c'est bien filmé, ça veut dire surtout créer quelques effets, c'est-à-dire se servir des mouvements qui peuvent être des travelling, ça peut être créer des mouvements en fonction de l'angle. Parce que parfois, l'angle, juste même tenir le téléphone en fonction d'un angle ou d'un autre, ça peut être différent. Après, ça peut tout changer. C'est vrai qu'un mouvement qui est beau, qui est puissant, par exemple, si je fais un mouvement où je vais courir et je vais faire un mouvement après avec la balle et que on me suit pas ou que je suis plus dans le champ de la caméra, dans la vidéo, c'est sûr que c'est mal filmé. Donc après, très très bien filmé, c'est vraiment créer des mouvements où il y a une introduction, où il y a un mouvement de caméra avec le début, avec la fin. Et après, en fonction de la musique aussi. Moi, j'aime beaucoup me faire filmer par des danseurs. Je trouve que c'est les danseurs qui filment le mieux. Ou alors des gens qui connaissent bien la danse. Parce que c'est ceux qui vont savoir comment le mouvement va se faire, qui vont écouter la musique en même temps que le danseur. Donc, ils vont pouvoir bouger en même temps. C'est comme les skaters. C'est souvent des skaters qui les filment parce qu'ils arrivent à les suivre, parce qu'ils font le mouvement en même temps. Et très souvent, les skaters, ils le font avec le skate. Donc, ils vont savoir ce qui est cool, en fait. Ils vont ressentir, en fait, ce kiff-là. Donc, c'est vrai que c'est souvent des danseurs que je vais prendre pour filmer.
Et comment ça se finance, ces vidéos? Tu les postes sur Instagram, c'est ça?
Ouais, alors ça se finance avec 0 €. Mmh. Ça se finance juste avec du temps et de la bonne volonté, je dirais. C'est vraiment, on va tourner, on va faire une vidéo, on va faire avec le téléphone portable. Le montage, on le fait sur le téléphone portable et après, on le poste sur Instagram. Ça se finance avec 0 €, hein, vraiment, juste avec le lieu qu'on trouve sur le moment, quoi.
Et justement, ces différents spots, quels sont les spots, toi, où tu aimes faire du freestyle ball? Et aussi, quels sont, peut-être première question, c'est quoi tes spots à toi, Charlie?
Alors, moi, mes spots à moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser des spots qui sont des classiques. C'est-à-dire avoir vraiment en arrière-plan, je ne sais pas, la Tour Eiffel, avoir les Champs-Élysées. C'est-à-dire vraiment quand on vient d'une ville, moi personnellement, je suis très fier de Paris. J'aime bien montrer des lieux un peu atypiques, typiques justement de ma ville. Donc, c'est vrai que je vais beaucoup aimer être, par exemple, devant l'Opéra de Paris. Avoir la Tour Eiffel en arrière-champ, avoir tout ça, parce que ça montre que ce que je fais, moi, qui est spectaculaire, c'est dans cette ville, donc je viens de cette ville. Ah, regardez, c'est où? Ah, c'est à Paris, parce qu'on reconnaît facilement, c'est-à-dire que n'importe qui à l'international va voir ça, va se dire waouh, c'est les Français, ah, ils font ça, les Français, waouh, ils sont chauds et tout, quand même, hein. Ah, ils font leur truc comme ça, vous avez vu leur style? Ah, ouais, ça peut être cool, vous avez vu les Français comment ils sont forts? Et on est extrêmement suivi. Que ce soit moi, que ce soit des gens de mon entourage, par des Américains, par des Japonais. Il y a des vidéos, même on en est très fiers, hein, qui sont reprises de ce qu'on fait. Et moi, je reçois même des vidéos de gens qui me disent « Ah, regarde ce que je fais et tout, je vois des mouvements, c'est génial. » Parce qu'on se dit que notre culture va se développer, pas seulement en France, mais va se développer dans le monde entier. Et ça va créer un mouvement, et ça, c'est le but. Et moi, j'aime beaucoup les lieux. On va dire deux styles de lieux. Ça va être soit un lieu que personne ne va vraiment trouver tout de suite, ou parfois ça va être un lieu très simple, mais qui va permettre de faire un effet, en fait. C'est-à-dire parfois ça va être juste une allée, mais qui donne un bel effet. Ça peut être une sculpture, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ça peut être les décors comme ça. Et après, j'aime bien quand je traverse le monde d'avoir des beaux paysages. Ça, c'est vraiment un truc que je kiffe. Là, j'ai eu la chance d'aller au Maroc il y a peu de temps. Et franchement, j'ai pu justement faire une vidéo où on voit les montagnes avec le coucher de soleil. Et c'était vraiment super inspirant, même de freestyler comme ça, dans un décor comme ça, c'est même le moment en fait de la vidéo est magique.
Du coup, le choix des spots, c'est toujours un moment super central dans la réalisation des vidéos. Est-ce que c'est carrément le point de départ? Tu pars du spot pour élaborer la série de mouvements, la série chorégraphique. Comment ça se passe?
Alors non, en général, les mouvements, je vais les faire, je vais les travailler de mon côté en training. Et une fois que j'en ai certains, que je me dis que je veux filmer, que j'ai fait ma chorégraphie, là, je vais aller sur un spot. Ou parfois, j'ai juste déjà plein de mouvements en tête et juste il y a un spot qui est prêt. Le spot, il va plutôt être lié avec la musique, parce que enfin, la choré aussi, bien sûr, c'est la choré qui va avec la musique. Et je me dis, si voilà, si je dois faire une choré comme ça, une musique comme ça, parfois c'est vrai que je vais aller chercher plutôt un lieu différent, un lieu qui va être collé à ça. Et parfois, on peut mettre quelque chose qui est complètement en contraste, comme je disais, et c'est encore plus intéressant. Et ça, c'est souvent ma touch à moi.
Et est-ce que tu peux nous parler des shows? Où est-ce que ça se fait, les shows? Qui est-ce qui les finance?
Alors, les shows, ça peut se faire un peu partout. Même parfois, ça peut se faire à notre insu. Moi, ça m'est déjà arrivé de m'entraîner dans la rue et qu'il y ait des gens qui s'arrêtent pour regarder. Ça m'est même arrivé qu'il y ait des gens qui veulent me payer alors que j'étais en entraînement. C'est des vraies histoires. Et plusieurs fois, hein, que ça soit dans des lieux qu'on connaît... que les danseurs connaissent, que ce soit le passage jacobin, que ce soit sur les Champs-Élysées, ça nous arrive même de training avec d'autres danseurs où on se réunit. Et je me rappelle même d'une anecdote qui était pendant le confinement. Je m'entraînais dans une petite galerie où il y avait, qui donnait sur la rue avec des miroirs. Et il n'y avait tellement plus rien depuis plus d'un mois. Et les gens s'arrêtaient pour me regarder m'entraîner. J'étais gêné parce que quand on s'entraîne, on essaye des choses, donc la balle tombe. Donc, quand les gens s'arrêtent, je commence à mettre la musique et à faire les enchaînements que je connais d'habitude. Je commence à faire le show, quoi. Parce que quand on s'entraîne, on essaye des mouvements, donc la balle, elle va tomber. Et devant un public, c'est très, très difficile d'avoir un mouvement, de rater un mouvement. Donc, quand les gens s'arrêtaient, je partais dans des mouvements qui étaient impressionnants, que je connaissais très bien, pour que les gens puissent apprécier aussi ce moment-là. Et il y a des personnes qui me disaient, tenez, je veux vous donner de l'argent. Je leur dis, non, c'est pas un show, je suis en entraînement. Et des gens qui insistaient, ils voulaient absolument payer parce qu'ils avaient aimé ce qu'ils voyaient. Et bah, je dirais, pour répondre à ta question, parce que je divague un petit peu, c'était les shows où ça se fait, ça peut être très bien les street shows, donc les spectacles de rue. Là, il suffit de mettre une sono dans certains endroits qu'on connaît bien, qui font partie de la culture maintenant des spectacles de rue, où c'est pas totalement, en fait, c'est pas totalement autorisé, mais c'est pas totalement interdit non plus. Donc, c'est au jour le jour, en fait, où on peut ou on ne peut pas. Et bah, y a les Champs-Élysées qui sont un grand classique, où les gens aiment se balader et voir justement des artistes. Il y a le Trocadéro, il y a aussi Châtelet. Et là, pour l'instant, honnêtement, ça dépend. En fait, il y a des endroits où c'est autorisé, c'est toléré. Il y a des endroits où c'est pas autorisé, c'est pas toléré. Ça dépend des périodes, ça dépend du jour le jour, ça dépend des personnes aussi. Pour l'instant, ça s'est pas du tout financé, c'est pas encore organisé. Je sais pas du tout ce qui va en venir de ça. Sinon, au niveau des shows, on peut avoir des shows aussi avec des mairies. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être appelé par des mairies pour faire des inaugurations, des choses comme ça, pour des gymnases, pour des lieux. Ça peut être, voilà, ça peut être organisé aussi par l'État. Ça peut être organisé par des associations, par des spectacles. Ça peut être organisé pour des événements. Ça peut être pour des mariages, des anniversaires, des bar mitzvahs où on aime bien avoir un spectacle un peu original. Eh ben, on nous appelle, on fait des shows. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est faire des shows pour les mi-temps de basket, de matchs de basket. J'ai eu la chance d'en faire quelques-uns. Et c'est là où je kiffe vraiment faire un show. C'est vraiment dans ces moments-là, parce qu'on a le public du basket qui vont voir quelque chose de nouveau au niveau du basket. Donc ça, c'est assez cool. Sinon, le show est permanent. Je pourrais dire show must go on.
Et Charlie, du coup, tu nous racontais aussi tout à l'heure comment vous échangez avec d'autres freestyle basketteurs ou d'autres danseurs sur vos différentes pratiques, vos différentes vidéos, comment vous vous inspiriez des mouvements des uns et des autres. Donc, il y a une communication et un échange perpétuel. Est-ce que cet échange, il a aussi lieu quand tu t'entraînes ou quand quand tu fais des shows dans l'espace public. Est-ce que là aussi, il y a de l'échange d'informations et de savoirs? Et est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe, en fait, d'apprendre comme ça, d'avoir une pratique de aussi haut niveau, mais sans aucune structure académique? Comment on fait pour aller aussi loin, en fait?
Ok. Alors, moi, j'avais la grande chance d'habiter pas très, très loin, à quelques stations du 104, qui est vraiment une mine d'or, en fait, qui est actuellement fermée parce que c'est le confinement, mais qui est vraiment une mine d'or au niveau de la découverte des pratiques, parce que on va aller là-bas et il va y avoir plein de petits groupes qui vont se mettre un peu partout, et on va avoir d'un côté des gens qui font de la salsa, d'un côté des gens qui font du break, d'un côté qui vont faire du popping, il y en a qui vont faire de l'électro, on va avoir tous les styles qui vont être différents. Et il suffit même, enfin pour certains, on a d'aller les voir, leur dire voilà, j'aimerais bien essayer, tu peux me montrer des trucs. Et franchement, c'est très rare que quelqu'un refuse, de dire bah regarde, je te montre quelques mouvements. Et c'est comme ça que je suis parti moi apprendre. Même moi, on vient me voir, tu peux me montrer un truc. Même des danseurs, tu peux m'apprendre un truc, tu peux m'apprendre à faire ci, tu peux m'apprendre à faire ça. Et très souvent, les gens sont ouverts. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé à beaucoup me développer. C'est-à-dire que moi, j'allais m'entraîner là-bas tout seul, et après, j'allais souvent avec des breakers. Parce que ma pratique à moi, elle a commencé par être d'abord spectaculaire. C'est-à-dire, il y avait vraiment ce côté où je voulais mettre du power move. Donc, c'était vraiment les mouvements impressionnants pour vraiment aller vite dans les shows. Et après, j'ai compris qu'il fallait aussi avoir de la construction. Donc, j'allais avec des poppers, j'allais avec des danseurs, j'allais avec plein de styles de danseurs différents. Après, je suis allé avec des danseurs qui étaient plus dans une construction justement complète comme moi. C'est-à-dire vraiment même des danseurs qu'on peut appeler des freestylers, c'est-à-dire des danseurs qui vont mettre une musique et après partir dans leur mouvement en s'inspirant de plein de moves différents. Donc ouais, là où j'ai commencé, c'est vraiment des lieux comme ça qui sont très importants, qui sont le 104, où on va avoir vraiment une liberté, c'est-à-dire qu'on va avoir le droit de venir pour s'entraîner, mettre de la musique. Et il y a une harmonie en plus là-bas, parce qu'il y a des gens qui répètent même des pièces de théâtre, il y a des gens qui vont répéter de tout, en fait. Et c'est vraiment un endroit qui est hyper important. Il devrait y en avoir beaucoup plus des endroits comme ça qui existent, parce que ça permet à la fois à des personnes qui sont amateurs de pouvoir se développer professionnellement sans avoir à passer par des écoles qui sont pas toujours même dans une optique de pensée. C'est-à-dire que tous les artistes vont pas forcément se dire tiens, je vais passer par une école ou quoi que ce soit. Moi, je connais pas beaucoup de freestylers, même football, qui sont passés par quelle école, quoi que ce soit. Ça a été que la rue, c'est-à-dire vraiment d'aller voir d'autres danseurs. Après, en dehors du 104, il y a les entraînements qu'on fait n'importe où, c'est-à-dire dans la rue où on peut se poser, mettre de la musique et aller s'entraîner quand on n'a pas de salle, parce qu'au début, on n'a pas forcément l'accès à des salles de danse. Après, au bout d'un moment, on en a envie. Il y a un autre endroit aussi où je me suis beaucoup développé qui s'appelle La Place. Donc, c'est en plein Châtelet. C'est un collectif qui ont créé également un lieu comme ça où on peut aller s'entraîner, où on peut aller échanger, où ils créent aussi, les danseurs créent aussi leur cypher. Donc, c'est des petits cercles où chacun va passer, va regarder l'autre danser et après passer à son tour pour montrer des mouvements, essayer de nouveaux mouvements, se lâcher, parce qu'on a un public tout d'un coup qui est fait de danseurs. Donc, on a un public qui va être beaucoup plus tolérant, qui vont être encourageants. Et c'est là où on va avoir cette vibes qui est le plus important pour moi. C'est de choper cette vibes qui est le bonheur de le faire et d'avoir l'envie d'encourager les autres de le faire aussi. Et c'est cette vibes qui a fait pour moi que la culture hip-hop, en tout cas surtout au niveau de la danse, a énormément duré. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements qui ont peut-être disparu par le passé ou qui existent, mais peut-être même rarement, mais que ça soit le hip-hop, ça se développe encore et encore. Donc, je pense qu'il y a ces lieux qui sont des lieux clés pour les danseurs qui ont le droit d'aller pour s'entraîner, pour vraiment se développer, pour s'essayer. Et après, il y a ce côté où il y a les battles, où on va commencer à faire des petits battles, échanger, c'est-à-dire on fait un face-à-face. Ça s'appelle un échange, qui n'est pas un vrai battle, c'est-à-dire on va chacun de notre tour passer, faire notre mouvement, faire notre enchaînement sur la musique, essayer de caler nos mouvements sur la musique et faire des choses assez spectaculaires, toujours nouveaux, et après envoyer ce message à l'autre, et l'autre on nous renvoie ce message, et il y a ce respect mutuel où on va se féliciter, où après on va se conseiller. C'est-à-dire qu'une fois on a fait nos mouvements, quand on va être face à un danseur plus expérimenté, ou même pas forcément, hein, il peut nous dire « moi j'ai remarqué ça chez toi, essaye de peut-être le faire parce que c'est un bon truc. Ah, ça, essaye de le corriger ou essaye de le travailler parce que ça peut être quelque chose d'encore mieux et ça peut être plus fluide. » Et je pense que c'est de là, après, moi, où personnellement, je me suis développé. C'est-à-dire que je suis vraiment allé vers les poppers, où j'essayais vraiment de travailler ces blocages, ces mouvements pour donner de plus en plus d'illusions, vers les breakers, où ils vont me permettre de montrer un peu ce côté où on va pouvoir amener un power move, un mouvement qui va être assez spectaculaire. Après, j'ai été vraiment me développer avec tout. J'ai voulu essayer. Je me suis dit que le freestyle, ça doit être tellement large que je ne dois jamais me limiter. C'est-à-dire que même il y avait des moments où j'étais dans un endroit où il y avait des gens qui avaient de la musique qui était super fort. Je ne suis pas allé les voir pour leur dire baissez votre musique. Je me suis dit, c'est quoi, je vais essayer sur les musiques différentes. Et c'est là où moi, je me suis beaucoup développé. C'est que je me suis essayé sur des musiques différentes.
C'est-à-dire que... toute cette richesse, là, toute cette pratique que tu nous décris, comment elle a fait face au confinement? Comment elle s'est adaptée là, avec le confinement? Comment elle s'est transformée?
C'est vrai que on est un peu chacun dans notre coin. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis surtout maintenu sur tout ça, physiquement, parce que moi, je travaillais aussi d'acrobatie. Et c'est vrai que l'acrobatie, c'est difficile d'en pratiquer en dehors tout seul, parce que en général, il vaut mieux avoir une salle pour ça. Donc moi, je me suis surtout maintenu physiquement, c'est-à-dire que j'ai maintenu mon corps prêt à l'effort, et sinon après j'ai continué à m'entraîner dans des endroits où on a pu trouver. Et là actuellement, je suis dans un sous-sol que j'ai trouvé où je pouvais. À la base, j'étais même dans un parking, parce qu'on ne peut pas être dehors, parce que en plus, quand on met de la musique, on va vite savoir qu'on est là. et c'est compliqué encore quand on est danseur. Je pense que ça peut aller, parce que quand on a des voisins qui sont pas trop difficiles et qu'on fait pas trop de mouvements de pied, ça va. Moi personnellement, j'ai essayé de le faire une fois chez moi. Il y a vite eu quelqu'un qui a sonné chez moi pour me dire ça fait beaucoup de bruit, parce que les pieds tapent sur le sol, parce que la balle tombe sur le sol aussi, et quand une balle de basket tombe sur un sol, on le sait. Ça fait beaucoup de bruit. Donc c'est vrai que c'est là où il faut aller chercher, il faut aller regarder dans les environs où on peut aller s'entraîner. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché une galerie pendant le premier confinement. J'avais trouvé une galerie avec des miroirs. J'avais beaucoup de chance de le faire. Et à cette époque-là, on avait... je me rappelle, c'était entre 18 ou 19 heures, quelque chose comme ça, où on pouvait sortir faire du sport. À 19 heures, je sortais vite. J'avais une heure pour m'entraîner. Sinon, en dehors de ça, je faisais des pompes, je faisais des abdos, je me maintenais physiquement, je faisais un petit peu de danse. Mais à Paris, quand on est dans des appartements, tout ça, ça fait du bruit, tout ça. Donc on essaie de travailler de nouveaux mouvements. Et au final, ça m'a beaucoup apporté, parce que ça a pu me permettre de me développer beaucoup, comme on appelle ça, le body control, c'est-à-dire les mouvements qu'on fait avec le corps, des mouvements lents, des mouvements où on va contrôler un peu son corps. Et après, j'ai essayé même des nouvelles choses. Je me suis mis même à faire du yoga. J'ai mis mon téléphone et j'ai fait des exercices qui proposaient en ligne, des exercices gratuits. Et beaucoup de gens qui faisaient des lives pour « allez-y, allez-y ». Moi, je trouve que le premier confinement, il y a eu une super bonne vibe du premier confinement, de se dire c'est une situation dramatique pour tout le monde, même pour soi-même, et se dire « tiens, on va tous se donner de la force ». Franchement, le premier confinement, je l'ai trouvé presque… Franchement, il y avait vraiment une belle vibe, quoi. Il y avait vraiment ce côté-là, tout le monde voulait apporter aux autres, et c'était un beau truc, quoi. Maintenant, là, les nouveaux confinements, ils sont... c'est bon, ça nous saoule. On s'est tous adaptés, mais ça nous saoule. On est habitués, quoi. Ça devient quelque chose de naturel, alors que le premier, il y avait ce côté où on était... C'était tellement dramatique pour tout le monde que tout le monde voulait apporter. Et moi, j'ai commencé à faire du yoga. Et grâce à ça, j'ai travaillé mes postures aussi. Et il ne faut pas hésiter à aller vers d'autres disciplines. Moi, c'est ce que j'ai fait, et ça m'a beaucoup apporté d'aller dans d'autres disciplines, dans l'équilibre. Ça m'a permis de débloquer de nouveaux mouvements aussi. Et je pense que comme dit, je crois, un proverbe chinois, dans chaque problème, il y a une opportunité. Et moi, j'ai saisi une opportunité, une belle opportunité de ce confinement.
Et il y a les Jeux Olympiques là, qui se préparent à Paris et en Seine-Saint-Denis. Comment tu perçois ça, toi, l'arrivée des Jeux Olympiques? Est-ce que justement ce serait des opportunités pour toi et pour ta pratique ou pas?
Ça en était une déjà, parce que je trouve que c'est génial, parce qu'il y a eu le breakdance qui a été accepté, ça y est, aux Jeux Olympiques, comme discipline olympique. Et je crois que c'est un test, si j'ai bien compris. Et j'ai eu la chance de participer à un événement Paris 2024 pour lequel j'ai été sélectionné. J'ai eu la chance d'aller rencontrer l'équipe de France de breakdance, justement, qui sont très jeunes. J'ai rencontré les capitaines. Et c'était vraiment, vraiment top parce qu'on a pu faire un battle. Et dans ce battle, j'ai eu l'occasion, moi, de passer un passage freestyle face à un autre freestyler, d'ailleurs, qui, lui, a vraiment spécialisé ce freestyle-là qui s'appelle Gins, ce freestyle qui venait du breakdance. Et surprise, parce que je ne le savais pas qu'il était là, et c'est un peu mon bon pote rival, parce qu'on vient tous les deux du 93, parce qu'on est, on est tous les deux un peu issus de la même culture, on a un peu les mêmes bases. Et c'était intéressant qu'on se voit. Donc, dès qu'on s'est vu, on s'est mis chacun dans une équipe et on a fait notre battle. Et en même temps, c'était génial de pouvoir montrer notre discipline dans un événement olympique, parce que nous qui venons, enfin, moi personnellement, qui viens de la rue, qui viens justement de un peu de nulle part dans le freestyle, qui était juste un petit gars qui allait avec son ballon de basket sur un terrain de basket, je suis arrivé sur un événement olympique où j'arrivais à faire. Un battle, quoi, où je montrais mes mouvements à moi, qui sont des mouvements qui viennent de la danse, du kung-fu, comme d'autres breakers qui ont déjà inspiré comme ça. Et je trouve que c'est génial, en fait. C'est génial qu'une culture qui a eu du mal à se faire accepter, hein. C'était pas forcément bien vu, hein. Ça a été très, très mal vu pendant des années, hein, le hip-hop, parce que ça avait cette culture qui était le côté urbain, qui était ce côté un peu voyou, tout ça. Ça a eu beaucoup, beaucoup de temps à être pris en compte. Hein. Le breakdance, ça n'a pas toujours été bien vu. Ça a toujours été impressionnant, mais ça a souvent été lié avec la culture du rap, avec la culture, tout ça, les jeunes, machin. Ça a été pendant des années vraiment une bataille. Et on peut remercier tous les anciens qui ont bataillé pour que ça soit accepté, que ça soit créé dans des écoles. Depuis maintenant, ça s'est énormément développé. Hein. Il y a eu des écoles de danse depuis très, très longtemps, du hip-hop, tout ça. Mais c'est vrai que ça a été toujours encore lié à la rue, à la rue, à la rue, à la rue. Et quand ça vient de la rue, ça c'est pas forcément accepté dans le milieu artistique contemporain aussi rapidement. Ça, elle a été forcément par la suite, parce que ça a ce côté, justement, cette touch underground. Mais c'est génial que ça arrive aux Jeux Olympiques maintenant, que ça soit reconnu et qu'on puisse enfin aller vers là, hein, aller vers que des danseurs puissent se dépasser et qu'il y ait des danseurs olympiques. Alors après, justement, ça a été beaucoup plus dur d'être accepté, je pense, par les danseurs de rue, parce qu'il y a ce côté pur où on dit que voilà, qui va juger quoi, comment ça va être pris, parce que il y a cette pureté maintenant, justement, qui vient du hip-hop, ce côté rue, justement, du breakdance avec ses battles où il y a énormément de codes. Mais je pense que de toute façon, ils ont fait les choses bien, parce que quand j'ai vu déjà l'événement olympique, ils avaient pris des figures, des vraies figures du hip-hop. Ils ne vont pas prendre un juge de contorsion ou je ne sais pas, mais ils ont pris des vrais juges de hip-hop. Il y avait vraiment cette culture urbaine, il y avait le speaker qui était là avec des chaînes, avec cette manière de parler, mais ça restait correct, quoi. Ça restait quelque chose de très clean. Et même les danseurs, eux, avaient ce côté vraiment olympique, cette discipline, ce côté sportif. Et c'est super intéressant de voir ça, parce que ça crée une nouvelle... ça crée quelque part un nouveau break même. C'est le break olympique.
Et Charlie, est-ce que tu auras un petit mot de la fin pour nous ?
Yes, il y a un petit mot que j'aimerais dire que j'enseigne énormément avec les jeunes quand j'enseigne le freestyle, c'est que quelle que soit la discipline qu'on veut faire, c'est quelque chose que le freestyle m'a appris, c'est que quand on veut obtenir un résultat, c'est-à-dire avoir un mouvement, c'est rien que de faire tourner la balle sur le doigt, il faut essayer, et en essayant, on va commencer à mieux réussir, on va peut-être le faire tourner une seconde, deux secondes, trois secondes. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il faut toujours rester persévérant, et c'est dans la persévérance qu'on arrive à avoir des résultats, et qu'il ne faut jamais rien lâcher, et continuer, et c'est comme ça, même dans la vie, dans d'autres disciplines ou des carrières, on arrive, on essaye, il y a des échecs, mais c'est comme ça qu'on finit par y arriver.
Merci Charlie, on s'accroche avec toi alors.
Merci beaucoup Niels, c'était un plaisir.